Monde ce matin. Les premiers mots d'Emmanuel Macron contre l'homme qui monte dans les sondages en ce début de campagne présidentielle. Le président sort de son silence et attaque Éric Zemmour sans le nommer. Première sortie très politique. On va l'entendre dans un instant. Faire une chose contre nature pour une juste cause. Voilà comment Maxime Blasco définissait le courage. Tué au Mali vendredi, un hommage national lui sera rendu aujourd'hui. À la une aussi, la Guyane à bout de souffle pour lutter contre l'épidémie de Covid. On entendra l'épuisement des soignants alors que partout ailleurs l'épidémie reflue. Et vous en parlerez ensuite avec le ministre de la Santé, Nicolas.
Olivier Véran, dans le grand entretien tout à l'heure, d'ici une vingtaine de minutes. Appelez-nous 01 45 24 7000.
Et dans ce journal, des humanitaires accusés de viol en République démocratique du Congo. Le patron de l'OMS promet de les punir et présente ses excuses aux victimes. Le Mont Blanc, combien mesure-t-il cette année? Réponse des géomètres. Aujourd'hui, un incroyable trésor breton aux enchères. Et le dernier James Bond, présenté en avant-première mondiale à Londres hier soir, au cinéma chez nous la semaine prochaine. Corinne Pellissier nous dira ce qu'elle en a pensé.
France Inter.
C'est un premier pas dans la mêlée, alors que les Verts ont désormais leur candidat Yannick Jadot, que Marine Le Pen présente son projet sur l'immigration, que Jean-Luc Mélenchon débatte avec Éric Zemmour. Emmanuel Macron s'en tenait jusque-là à des bains de foule et des annonces de président. Il est hier soir entré dans l'arène sur le chantier de la rénovation de la BNF pour répondre à celui qui agite ce début de campagne présidentielle, Éric Zemmour, ce qu'il avait refusé de faire jusque-là, Maxence Lambrecq.
Dans les allées du salon de la restauration, lundi à Lyon, Emmanuel Macron résistait.
Non, mais c'est pas au président de commenter des débats.
Il ne voulait pas tomber dans l'arène comme n'importe quel candidat.
Non, et pas.
Mais hier soir, il n'a pas pu s'empêcher de lui répondre dans un discours célébrant la réouverture du site historique de la Bibliothèque nationale de France.
À un moment où nous nous posons souvent dans le débat politique la question de notre identité, je veux aussi ici vous dire une conviction profonde. Notre identité ne s'est jamais bâti sur le rétrécissement, ni à des prénoms, ni à des formes de crispation.
Il pose le cadre, à moi l'universalité, à lui le repli.
La France a toujours écrit sa propre histoire mondiale, par des institutions qui dépassaient le simple hexagone, et par une langue qu'elle a toujours fait voyager, et dont l'épicentre aujourd'hui n'est plus sur ses rives de Seine, mais sans doute bien davantage vers le bassin du fleuve Congo.
Il montre ainsi qu'il a envie de rentrer dans le match, de confronter ses convictions à celles du polémiste. Cette dernière phrase, il l'a déjà prononcée il y a 3 ans dans un sommet de la francophonie. Excellent, applaudit un de ses fidèles, car certains commençaient à s'impatienter. Ce week-end, François Bayrou comparait Éric Zemmour au maréchal Mobutu. Le combat ne fait commencer.
Éric Zemmour crédité de 13 à 14% des voix selon un sondage Harris d'hier. Et ce sera sans doute l'un des poisons de cette campagne. Les fake news et les théories du complot qui fleurissent sur les réseaux. Pour ne pas les laisser s'épanouir, Emmanuel Macron lance aujourd'hui une commission qui aura 3 mois pour identifier les mécanismes de ces fake news et apporter des solutions concrètes. Mission confiée au sociologue Gérald Bronner.
Il s'agit de réfléchir aux conditions, parce que la démocratie c'est quand même le débat, éventuellement même la polémique, mais en tout cas à condition que ça puisse faire dans un espace intellectuel commun. On a l'impression de ne vivre plus tout à fait dans le même monde. J'aurais envie de comprendre exactement comment ça fonctionne et comment se fait-il, alors que tout le monde la main sur le cœur dit on fait tout pour éviter que par exemple des publicités ne viennent nourrir des sites objectivement complotistes ou promoteurs de haine, et puis qu'à la fin ces sites continuent à avoir des flux d'argent très importants. Pourquoi? C'est un article de 2019 qui le montre, lorsqu'on cherche la notion de climat, eh bien on tombe sur plus de 50% de vidéos climato-sceptiques. Donc c'est une façon d'éditorialiser l'information qui est quand même très problématique. Alors je sais que les plateformes prétendent faire beaucoup d'efforts, mais on n'en voit pas toujours les effets. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à éclaircir.
Voilà, Gérald Bronner, sociologue chargé de réfléchir aux théories du complot et aux fausses nouvelles qui fleurissent sur les réseaux. Elles sont accusées de faire la propagande de l'islamisme radical ou d'appeler à la discrimination. Une douzaine d'associations dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Il veut les dissoudre et cite dans le Figaro ce matin, entre autres, la Ligue de défense noire africaine ou la maison d'édition Nawa qui incite à l'extermination des juifs et légitime la lapidation des homosexuels. Gérald Darmanin annonce aussi qu'il a lancé des procédures pour fermer 6 lieux de culte. Tué vendredi par des terroristes aux confins du Mali et du Burkina Faso, Maxime Blasco est le 52e soldat français mort au Sahel. Un hommage national lui sera rendu cet après-midi aux Invalides à Paris, où la population est invitée, comme pour ses précédents camarades tués au combat, à se masser sur le pont Alexandre III au passage du cercueil. Franck Cognard.
C'est un rituel malheureusement bien ancré désormais, un convoi funéraire qui traverse le pont Alexandre III sous les applaudissements pour entrer aux Invalides. Au milieu de la cour rectangulaire, le cercueil recouvert de bleu, blanc, rouge et autour des soldats, des autorités politiques et militaires et des proches. Parmi ceux qui seront là aujourd'hui pour l'hommage national, Gérard Guerrier. Il est écrivain et en 2019, alors qu'il prépare son livre « Du courage », il rencontre Max, le commando montagne Maxime Blasco. Gérard Guerrier interroge au total une cinquantaine de personnes sur ce qu'est le courage et...
Et Max m'a donné une définition qui m'a surpris tellement elle était simple et profonde. Il m'a dit « c'est faire quelque chose contre nature pour une juste cause ». Max, il a pas fait l'ENA, il a pas fait Polytechnique. Moi, j'avais interrogé des gens très qualifiés sur le sujet et honnêtement, ils n'avaient pas une définition aussi lumineuse et limpide que celle de Max.
La réflexion de Maxime Blasco, poursuit l'écrivain, correspond à son apparence physique, à sa silhouette. C'était quelqu'un de solidement campé sur ses deux jambes qui donnait une impression de stabilité et de force intérieure.
Franck Cognard, des balles tirées en plein jour à Cavaillon, dans le Vaucluse hier. Un jeune homme de 22 ans s'effondre, nouvelle victime de ce qui ressemble à un règlement de compte dans un quartier de Dille de la ville.
Il est 8h08, moins de 50 cas de Covid, Florence, pour 100 000 habitants.
En métropole, plus de la moitié des départements sont passés au vert. Aux Antilles aussi, la situation s'améliore. Mais il reste un morceau de France où l'épidémie continue à progresser. C'est la Guyane, plus de 500 cas pour 100 000 habitants. 21 décès la semaine dernière, bilan jamais atteint jusque-là. Moins de 30% de la population a reçu une première dose de vaccin. Et les soignants à l'hôpital, Hélène Chevalier, n'arrivent plus à faire face.
La voix du professeur Atem Kalel trahit son état.
Je suis fatigué aussi, je suis épuisé.
Le chef de la réanimation au centre hospitalier de Cayenne sort d'une nouvelle nuit de garde. Depuis le début de la pandémie, son service n'a jamais eu vraiment de répit. Avec 3 à 4 nouveaux patients Covid chaque jour, il doit maintenant faire face à sa pire vague.
Le problème, c'est que avec la montée qu'on est en train de vivre et en fonction de ce qui s'est passé sur les derniers jours, on s'attend à ce que ça continue à monter. D'autant plus que la couverture vaccinale n'est pas optimale. Et donc, on se prépare à ce que la pression du travail soit encore plus importante.
Une pression accrue que le personnel ne pourra pas supporter. Des lits supplémentaires auraient déjà dû être ouverts, mais les bras manquent.
Tout le monde est fatigué. Nous avons donné depuis maintenant pratiquement une année et demie. Il y a du personnel qui s'est mis en arrêt. Forcés parce qu'ils ne peuvent plus suivre le rythme actuel du travail et de la pression de l'épidémie. On reste toujours engagé dans notre lutte, mais nos capacités physiques et mentales, elles ont quand même des limites.
Pour le professeur Kalel, le renfort d'une dizaine de personnes venues de métropole est bien trop insuffisant. Il en faudrait selon lui 5 fois plus.
La Guyane où le président de l'Assemblée locale comme l'ancienne ministre Christiane Taubira refuse toujours d'appeler officiellement à la vaccination. Même cause et mêmes effets, mal au bras, fatigue ou fièvre, ces symptômes souvent ressentis après les piqûres de Moderna ou de Pfizer valent aussi pour la troisième dose de rappel. Ce sont les autorités sanitaires américaines qui l'annoncent. Là-bas, des humanitaires étaient intervenu contre Ebola. C'était en République démocratique du Congo entre 2018 et 2020. Mais qu'ont-ils fait de leur mission ? Ils sont 83, dont une vingtaine d'employés de l'OMS accusés d'abus sexuels sur des dizaines de femmes à qui ils faisaient miroiter du travail. Une commission d'enquête indépendante a rendu son rapport hier et le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, promet de punir les coupables. Jérémy Lanche.
The first thing I want to say is I'm sorry.
Si elles semblent sincères, les excuses de Tedros Ghebreyesus pèsent peu face à la gravité des faits. Après un an d'enquête, le rapport commandé par l'agence vient confirmer les allégations de violences sexuelles sur au moins 75 personnes, en grande majorité des femmes, jeunes et en situation de grande précarité. La plupart n'ont jamais obtenu les emplois promis malgré le fait qu'elles aient cédé au chantage sexuel. Malik Koulibaly est l'un des rapporteurs de la commission d'enquête.
L'équipe d'examen a comptabilisé au total 9 allégations de viol. 6 victimes présumées ont affirmé
avoir fait des fausses couches. D'autres victimes ont affirmé aux agresseurs que certains des hommes qui avaient abusé d'elles les avaient aussi contraintes à se faire avorter lorsqu'elles tombaient enceintes.
On ne connaît pas en détail les nationalités des agresseurs. Tout juste sait-on qu'il y a parmi eux des Congolais et des expatriés. L'OMS va transmettre les allégations les concernant à la justice de leur pays et de la RDC. Mais le rapport ne se contente pas d'épingler les auteurs présumés. Il dénonce aussi une forme de culture d'impunité sur le terrain et les manquements de plusieurs responsables qui n'ont pas alerté leur hiérarchie. Interrogé pour savoir s'il comptait démissionner, le patron de l'OMS a simplement dit qu'il aurait peut-être dû poser plus de questions lors de ses nombreux voyages en RDC. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Et on retournera au Congo avec Pierre Aski juste après ce journal pour parler des mines de métaux rares. À La Palma, aux Canaries, c'était à craindre et c'est arrivé cette nuit. La lave du volcan en éruption depuis 10 jours a fini par atteindre l'océan, ce qui fait craindre des émanations de gaz toxiques. 2 personnes en étaient mortes lors des dernières éruptions.
Il est 8h12, c'est le toit de l'Europe, Florence. Combien mesure-t-il ?
On a tous appris dans les livres d'histoire que le Mont Blanc faisait 4807 mètres. Or, on sait depuis quelques années que cette taille varie en fonction de la météo et du climat. La dernière mesure, il y a 4 ans, le donnait à 4808 mètres et 72 centimètres. C'est très précis. Et on saura aujourd'hui, grâce à des géomètres, Béatrice Duguay, quelle est sa taille actuelle.
La toute première mesure remonte à la fin du XVIIe siècle, 2426 toises, soit environ 4728 mètres. Mesure attribuée au géomètre et astronome genevois Nicolas Facio, aidé de son frère Jean-Christophe. 1863, le lever topographique du capitaine Jean-Joseph Mieulet indique le fameux 4807 mètres qui restera la référence pendant plus d'un siècle.
Ces alpinistes sur les hautes pentes s'habillaient comme à la ville. Les femmes en chapeau à voilettes et avec de longues jupes, et les hommes en gilets de flanelle.
L'altitude du Mont Blanc, c'est celle du manteau neigeux qui coiffe la cime, un glacier de 15 à 20 mètres d'épaisseur. Cette neige éternelle est balayée, déplacée, dispersée par des vents violents. Elle est aussi soumise aux aléas climatiques. Elle peut varier donc d'un à deux mètres. Depuis 2001, le sommet est mesuré tous les 2 ans par les géomètres experts de Haute-Savoie. Les 16, 17 et 18 septembre dernier, ils ont hissé à dos d'homme 18 kilos de matériel très sophistiqué. Ils ont scanné tout le dôme pour le modéliser, transmis ensuite les données de 2 récepteurs à plusieurs satellites avec une précision de 2 à 5 centimètres, mieux que votre GPS de voiture, pour obtenir donc la nouvelle altitude du toit de l'Europe.
Béatrice Duguay, combien pour ce trésor retrouvé dans un manoir breton il y a 2 ans? 239 pièces d'or découvertes par des ouvriers de cette demeure près de Quimper, mises en vente aux enchères aujourd'hui et qui vont rapporter gros, Margot Kefelec.
La fin d'une belle histoire selon François Mion, propriétaire du trésor. Il se souvient du jour où ses ouvriers lui annonçaient leur découverte comme si c'était hier.
J'étais très incrédule au départ quand j'ai appris ça. C'est une plaisanterie. Non, pas du tout, c'est vrai. Trouver un trésor, c'est un truc dont on a tous rêvé quand on est en gosse. Ça a le don de vous ramener quelques années en arrière. Ça fait fonctionner l'imaginaire, hein, parce qu'on essaie d'échafauder plein d'hypothèses. Comment ça a pu arriver là? Qu'est-ce que c'est? Quelle origine?
D'après le service archéologique de Rennes, il s'agit de l'épargne d'un commerçant du XVIIe siècle. Des louis, des doubles louis d'or qui viennent de toute la France, gardés dans une boîte métallique et une bourse en tissu, encastrés dans un mur. Un magot exceptionnel pour Florian Doisonville, commissaire priseur en charge de la vente.
Ce qui est assez exceptionnel, c'est à la fois la quantité, car ça représentait déjà même à l'époque une somme considérable, et la qualité, puisque ce sont des pièces qui ont été cachées vraisemblablement à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. Les plus tardives sont dans un état superbe. C'est pour ça qu'on a quelques pièces qui sont estimées, on va dire, entre 6-800, vous voyez, jusqu'à 10-15 000 euros pour les plus rares.
Coût total du trésor estimé entre 250 et 300 000 euros que se partageront les propriétaires et les ouvriers qui ont découvert les pièces d'or.
Margot Kefelec, France Bleu, Brésisel et l'or étaient dans les pieds de Messi hier soir. Premier but avec le PSG, victoire réjouissante 2-0 contre Manchester City lors de cette deuxième journée de Ligue des Champions. Les Anglais bourreaux des Parisiens lors des dernières demi-finales. En revanche, on imagine l'incompréhension à Madrid ce matin après cette improbable défaite du Real hier, battue 2-1 par le très modeste club moldave de Sheriff Tiraspol. Enfin, ding 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 pas vous le chanter pendant 2 ans.
On l'a reconnu.
Le temps qu'il aura fallu pour voir finalement sortir le dernier James Bond, Mourir peut attendre, retardé par le Covid, et projeté en avant-première hier soir, en avant-première mondiale, hier soir à Londres, avant de sortir mercredi prochain en France. Ce sera l'ultime James Bond de Daniel Craig. Alors Corinne Pellissier, est-ce que ça valait le coup d'attendre ?
Les 2 années passées dans la salle d'attente des studios de la MGM n'auront rien enlevé à l'intrigue de ce dernier épisode, tourné bien avant les premiers cas de Covid. Pas de pandémie au programme, mais une menace tout aussi crédible et inquiétante, orchestrée par un méchant, féru de technologie et plus dangereux encore sur le papier que le Spectre, avec son projet de virus inoculé par des nanorobots. Rami Malek, hélas, déçoit un peu dans cette aventure très sombre, remplie de révélations, qui feront de ce nouveau film un épisode à part, plus que jamais centré sur le personnage de Daniel Craig, ses blessures intimes, ses démons et sa relation à Léa Seydoux. Une approche qui divisera sans doute les fans, en dépit de moments d'action spectaculaires, une course-poursuite d'anthologie dans les rues de Matera en Italie, mais aussi quelques longueurs. C'était l'un des grands défis du réalisateur Cary Fukunaga. Refermer le chapitre Daniel Craig sans rien sacrifier aux effets visuels, aux scénarios et aux évolutions d'un monde qui change. 007 aujourd'hui ne fait plus rêver les femmes et devra même partager son célèbre matricule, il fallait oser. Heureusement, comme d'habitude, c'est lui qui sauve le monde. Et cette fois-ci, il a placé la barre très haut.
Alors on ne divulgâche pas.
On ne divulgâche pas, exactement.
Sachez simplement que 007, on le retrouve donc à partir de la semaine prochaine sur 1 millier d'écrans, car il a aussi pour mission de sauver le cinéma. Il y aura des avant-premières un peu partout en France dès mardi soir.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Marie-Pierre, la perturbation progresse.
Oui, assez rapidement, Nicolas. Et ce matin, elle arrose les régions allant du Bordelais au Pays Basque en remontant sur le Massif central au centre, à l'Île-de-France, aux Ardennes. En revanche, les éclaircies reviennent de la Bretagne aux Charentes à la Touraine. Et dans l'Est, après la dissipation des brouillards, eh bien, il fera beau. Et autour de la Méditerranée, on a du soleil, du vent. Il fait plus doux. 12 à Lille et Brive-Mulhouse. Vous avez 13 à Guéret, 14 à Paris. Et encore 21 à Bormes-les-Mimosas. Contraste avec les 4 petits degrés au Berry-Vent. Haute-Marne, 8 à Brest.
Et cet après-midi, la perturbation va perdre de son activité.
Oui, en progressant vers l'est, jusqu'aux Alpes et vers le sud, sur l'Occitanie, elle ne donnera que quelques averses. Et de belles éclaircies vont se développer dans le nord-ouest, jusqu'en Île-de-France. En revanche, de la Normandie au nord, une averse restera possible, alors qu'autour de la Méditerranée, le vent se lève et le ciel va se voiler, mais restera très lumineux jusqu'en Corse. Et on va encore perdre 2 à 3 degrés. Il fera pas plus de 13 à Moutes dans le Doubs, 14 à Aurillac et Cabourg, 15 à Lille, 16 à Nancy, 17 à Paris, 18 à Quimperlé-Bourges, vous aurez 19 à La Rochelle, 20 Grenoble, 21 Toulouse et encore 29 à Bastia.
Marie-Pierre, merci et à tout à l'heure.
À
France Inter, 8h19.